Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le lundi 8 novembre.
L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai.
Oui, dès aujourd'hui, vous pouvez à nouveau réaliser votre rêve américain. Les frontières des États-Unis sont à nouveau ouvertes après 18 mois de fermeture dans votre valise, votre passeport et votre passe sanitaire qui certifie que vous êtes vacciné et testé négatif, condition sine qua non pour passer la frontière. À cette occasion, le Figaro Voyage sort ce lundi le numéro spécial Amérique, le grand retour qui vous emmène sur la colline d'Hollywood, le long du Rio Grande, sur les bords du Mississippi, mais surtout dans les rues de New York. Quoi voir, quoi faire dans la grosse pomme? Nous serons à 5h40 avec le photojournaliste Éric Martin, dont les photos de New York illustrent ce large dossier du Figaro Voyage. Également, Julien.
Une rentrée masquée tout à l'heure pour des millions de petits Français. Le masque fait son retour dans les classes dans 39 départements alors qu'il avait été supprimé ces dernières semaines. Conséquence de la hausse du taux d'incidence un peu partout en France. Est-ce bien utile de masquer nos enfants? Ne vaudrait-il pas mieux les vacciner comme cela se fait depuis mardi dernier aux États-Unis? Et puis la troisième dose pour tous, est-ce pour bientôt? Autant de questions que l'on posera à notre invité à 6h10, l'infectiologue Benjamin Davido. Et puis on terminera en musique avec votre partition, Ombline.
Il est le premier rappeur blanc à s'imposer dans ce monde de la musique majoritairement noire. Eminem, dont la vie inspire le film 8 Mile, sorti au cinéma aux États-Unis il y a 19 ans, jour pour jour, retour sur les débuts du rappeur de Détroit à 6h20.
Yo, voilà donc pour une partie du programme, et on commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
On va pas s'en remettre. Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Bonjour.
Yo donc, à quoi va ressembler ce lundi de la rentrée scolaire?
Ça va ressembler à un vrai lundi d'automne. Enfin, l'automne agréable quand même. Alors, on a des brouillards ce matin sur le grand quart nord-ouest entre les Pays de la Loire et les Hauts-de-France. Ce matin, sur les Pyrénées, on a toujours un temps un petit peu agité avec de la pluie et puis de la neige à partir de 1400 mètres d'altitude. C'est vrai que du côté du Grand Tourmalet, là, c'était hivernal hein, ce week-end avec beaucoup de neige. Dans le sud-est, le temps sera agité avec du Mistral et de la Tramontane. Ça souffle fort au bord de la Méditerranée jusqu'à 100 km/h avec un temps orageux sur la Corse et sur tout le reste du pays. Donc, si vous n'êtes pas ni dans les Pyrénées, ni au bord de la Méditerranée, eh bien nous aurons un temps automnal avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies cet après-midi. De l'Alsace au Lyonnais, attention des grisailles cet après-midi si vous prenez la route. Les températures, elles sont fraîches. Il faut se couvrir, hein. Il faut couvrir les enfants ce matin. Moins 1 à Rennes, 2 à Nancy, 4 à Limoges, 5 à Paris et Quimper, 7 à Bordeaux, 10 à Dunkerque. Et cet après-midi, nous aurons 8 à 19 degrés.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h. Comme promis cet été, Emmanuel Macron s'adresse aux Français à l'automne. Ce sera demain soir. Objectif remobilisé face au rebond de l'épidémie de Covid. Les soignants déjà épuisés par plus d'un an et demi de crise sanitaire redoutent une cinquième vague alors que bon nombre de lits restent fermés faute de personnel. C'est une information Europe 1. Devenir propriétaire coûte toujours plus cher en France, en moyenne 12% de plus qu'il y a 6 ans. Et puis les vols pour les États-Unis quasi complets. Aujourd'hui, le pays rouvre ses frontières aux voyageurs vaccinés et testés. La fin de 20 mois de restrictions sanitaire et le soulagement des compagnies aériennes.
Europe Matin, Ombline Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce lundi vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. S'achemine-t-on vers de nouvelles restrictions sanitaires ou vers une obligation du rappel vaccinal? Réponse d'Emmanuel Macron demain soir. Face au rebond de l'épidémie de Covid, plus de 7200 nouveaux cas enregistrés hier en France, le président prend la parole et choisit un moment clé, celui où les soignants sont à bout après plus d'un an et demi de crise sanitaire. De nombreux lits sont fermés, faute de bras, les démissions se sont multipliées. Il redoute le pire, même si les services ne sont pas saturés dans l'immédiat. Zoé Pallier.
On a encore de la marge en réa, estime François Vincent, pneumologue au CHU de Limoges. Mais depuis une semaine, il reçoit de plus en plus de patients atteints du Covid. Des cas pas assez graves pour la réanimation, mais qui remplissent quand même les services de l'hôpital.
On a ouvert dans mon service en pneumologie 3 lits supplémentaires Covid. On va voir dans la semaine prochaine si la hausse des malades qui arrivent aux urgences augmente. Et là, on sera obligé d'augmenter un peu la voilure de lits spécialisés dans la prise en charge de ces malades.
D'autant qu'il y a un décalage de 3 semaines environ entre la hausse des cas et celle des hospitalisations. Pour l'instant, ce n'est qu'un frémissement, constate Frédéric Adnet, chef des urgences à Bobigny. Mais c'est déjà beaucoup pour des équipes épuisées et 80 lits fermés dans l'hôpital.
Je ne pense pas que ça puisse avoir la même intensité que les autres vagues. étant donné quand même qu'on a affaire à une population qui est vaccinée. Mais si on a quand même un nouveau afflux de patients, parce qu'il y a moins de lits ouverts, on va être encore plus handicapé que pour la première ou la deuxième vague.
Et les soignants espèrent surtout ne pas avoir à rouvrir leurs unités Covid et donc éviter cette fois-ci les déprogrammations.
Zoé Pallier. En attendant, ce matin, la rentrée scolaire se fait masquer pour les élèves de primaire de 39 nouveaux départements, ceux où le taux d'incidence est repassé au-dessus du seuil de 50 malades pour 100 000 habitants.
Quelle réponse apporter aux victimes de pédocriminalité dans l'Église? Les 120 évêques de France réunis depuis une semaine à Lourdes doivent révéler tout à l'heure une série de mesures.
Oui, on attend des mesures financières et de prévention. Et dans ce contexte, un colloque s'ouvre ce matin à Rennes autour d'un groupe de travailleuses sociales québécoise à l'origine d'une méthode de préparation pour aider les victimes à témoigner face aux autorités. Un coaching qui fonctionne tellement bien qu'il s'est généralisé dans tout le Québec. Reportage de notre correspondante dans l'Ouest, Sandrine Prioul.
C'est un témoignage crédible, incontournable, et ça devient une preuve.
Pour aider au témoignage sans influencer les propos, le protocole mis en place au Centre québécois d'aide aux victimes de Kathleen Dufour prépare méthodiquement les enfants à livrer un récit, celui de l'indicible.
On n'aborde jamais les événements d'abus physiques ou sexuels que l'enfant a vécu, mais on va utiliser d'autres expériences de vie. Il va se faire poser des questions du même style qu'il va avoir en salle de tribunal. Donc, on le fait expérimenter son rôle de témoin et à ce moment-là, il arrive à témoigner devant la cour avec toute la préparation qu'il a besoin.
Cette mue d'un enfant abusé en témoin crédible aux yeux de la loi a bluffé Laurence Brunet-Jambu, celle qui, en Bretagne, vient en aide à ces jeunes victimes y voir une solution pour les Français.
Le témoignage de l'enfant, quand c'est un bon témoignage, fluide, précis, ça va venir changer beaucoup de choses et ça va devenir un véritable outil pour la justice, en fait. L'enfant va être acteur de sa procédure et acteur de son témoignage et ça, ça n'a pas de prix.
Un protocole de préparation de l'enfant d'une trentaine d'heures que cette responsable d'association rêve de voir appliquer. Partout, déjà de rares tribunaux commencent à y accorder du crédit. Rennes, Sandrine Prioul, Europe 1.
Il est 5h passé de bientôt 5 minutes sur Europe 1 et cette exclusivité que l'on vous révèle ce matin avec Sologer, plus 12% en 6 ans, c'est l'augmentation pour l'achat d'un bien immobilier.
Oui, maison ou appartement, il faut mettre davantage la main au portefeuille si on veut devenir propriétaire. Maud Descamps, ce n'est pas que le prix du mètre carré qui a augmenté, cette hausse, c'est du tout compris.
Oui, c'est-à-dire à la fois le prix du bien immobilier que vous achetez, mais aussi le coût de votre emprunt, de votre assurance emprunteur, des frais de mutation, ce qu'on appelle plus communément les frais de notaire, ou encore la taxe foncière. Les mensualités des propriétaires ont gonflé ces dernières années, comme le détaille Séverine Amat de Se Loger.
On voit clairement que sur les 34 villes analysées, c'est le prix de l'immobilier et son augmentation en 6 ans qui prend le plus de poids dans cette enveloppe budgétaire que doit consacrer un porteur de projet aujourd'hui s'il souhaite acheter un bien immobilier. L'enveloppe des frais annexes, elle, est en retrait puisqu'elle était de 40% il y a 5 ans et elle est en 33% aujourd'hui.
Ce sont donc les prix de l'immobilier qui viennent gonfler la facture, mais il y a aussi la part destinée à la taxe foncière. Elle représentait 14,6% des mensualités en 2015. Aujourd'hui, elle est de 17,5%. Et puis, tous les Français ne sont pas à égalité. À Rennes, par exemple, un acheteur doit débourser 28% de plus par mois qu'il y a 6 ans, alors qu'à Marseille et Besançon, la hausse n'est que de 3%.
Merci Maud Descamps du service Éco d'Europe 1.
La Statue de la Liberté va accueillir à nouveau les touristes à bras ouverts.
Oui, dès ce matin, les États-Unis autorisent les voyageurs européens à fouler le sol américain. Seule condition, être vacciné contre le Covid et présenter un test négatif de moins de 3 jours. Soulagement notamment pour les familles séparées de leurs proches depuis maintenant 20 mois, mais aussi pour les compagnies aériennes qui attendaient cette réouverture avec impatience. Aurélien Fleureau.
122 vols par semaine, Air France retrouve des couleurs avec la plupart des avions complets aujourd'hui en direction de New York ou de Miami. Les États-Unis, une destination majeure pour la compagnie puisque c'est 40% de son chiffre d'affaires sur le long courrier. Les taux de remplissage sont bons aussi pour les fêtes de fin d'année. Même constat de la part de Marc Rochet, le président de la compagnie French Bee.
La levée du travel ban se traduit par des prises de réservation immédiates. Noël s'annonce très bon, voire complet. Donc, nous fondons beaucoup d'espoir sur cette ouverture que tout le monde attendait. Parce que les gens n'ont pas pu y aller depuis 2 ans. Donc, il y a un effet de rattrapage qui est indiscutable.
Et si cela reste compliqué ou même impossible de voyager en Asie ou en Amérique latine, eh bien, cela permet de remplir les avions en direction des États-Unis. Air France compte proposer 90% de son offre américaine de 2019 d'ici mars prochain. Autre illustration de cette ruée vers l'Amérique, le moteur de recherche Liligo a constaté ces dernières semaines une multiplication par 6 des requêtes, en particulier vers New York, où les prix restent en baisse de 12% par rapport à il y a 2 ans.
Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1.
Au Royaume-Uni, à présent, elle est détestée par les Britanniques pour sa relation adultère avec le prince Charles, mais Camilla est en train de prendre sa revanche et de s'imposer à Buckingham.
Elle devient de plus en plus populaire. Camilla apparaît impliquée. Elle gagne en responsabilité et en visibilité, notamment suite aux soucis de santé de la reine Elisabeth ces dernières semaines. Selon la presse britannique, elle pourrait même s'imposer comme l'un des piliers de la monarchie, Anaïs Cordoba.
Il y a 10 jours, Camilla prononce un discours marquant lors d'un événement associatif contre la violence sexuelle. L'épouse du prince Charles, qui soutient cette cause depuis longtemps, sort de sa réserve habituelle.
Nous ne tenons pas tous les hommes pour responsables de la violence sexuelle. En revanche, nous avons besoin qu'ils soient de notre côté pour régler ce problème. Combien encore soit-il de femmes harcelées, violées ou assassinées avant que nous nous unissions vraiment pour forger un monde sans violence ? Merci à tous.
Éloge de la presse britannique qui qualifie ce discours du plus important de sa vie publique. Au lendemain de l'annonce du désistement de la reine à la COP26, la coïncidence n'apparaît pas anodine. Selon certains médias, Camilla serait en voie d'être propulsée à un rôle majeur au sein de la monarchie. Une ascension qui viserait à combler le vide laissé par le départ du prince Harry et la mise en retrait du prince Andrew, emmêlé dans ses déboires judiciaires. Pour Camilla, une chance inattendue de parfaire son image auprès des Britanniques après des années d'impopularité. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
En tennis, Djokovic, une nouvelle fois roi de Paris. Hier, le Joker, comme on l'appelle, a battu Daniil Medvedev, numéro 2 mondial en 3-7. 6e victoire à Bercy pour le Serbe, qui s'empare de son 37e titre en Masters 1000.
On termine par un peu de culture et la sortie de la nouvelle BD de Riyad Satouf, Le jeune acteur.
Et le jeune acteur, c'est Vincent Lacoste, révélé dans le film Les Beaux Gosses. Depuis, il est devenu l'un des acteurs les plus demandés du cinéma français. Riyad Satouf reste quant à lui le plus gros vendeur de BD en France. Résultat, succès garanti pour cette nouvelle bande dessinée consacrée à leur rencontre il y a 12 ans, Marie Jiquel.
Enfin, j'imagine que tu voudrais pas trop sortir avec moi.
Non. Non, mais t'as vu ta gueule.
Qui a pu oublier cet adolescent ingrat, impopulaire au lycée et surtout auprès des filles, le héros des Beaux Gosses, le premier film de l'acteur Vincent Lacoste et du réalisateur Riyad Satouf, qui raconte dans cette bande dessinée les coulisses du tournage.
Il pensait qu'il allait jouer un jeune adolescent extrêmement séduisant avec une tablette de chocolat. Et en fait, il avait une coiffure toute pourrie et puis un pull tout naze. Et je l'avais pris parce qu'il avait une drôle de tête.
Riyad Satouf dessine sans filtre cette métamorphose de l'adolescent peu attirant au comédien charmant. Vincent Lacoste, 28 ans aujourd'hui, affiche plus d'une trentaine de films au compteur.
Quand je l'ai vu pour la première fois entrer dans cette pièce de casting qu'il avait 14 ans, j'ai eu l'impression qu'un dessin à moi avait pris vie et venait me parler en fait. Je crois que c'est ce que j'ai préféré chez lui tout de suite.
La suite des nombreuses déconvenues du début de carrière de Vincent Lacoste arrive. Riyad Satouf promet une trilogie.
Marie Jiquel.
Que l'on retrouvera dans 35 minutes pour la prescription culture. C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci Alban.
Il est 5h11 sur Europe 1, l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 509. Infante de tout, cette jument perfectible vient de laisser une impression des plus favorables lors de sa dernière tentative le 26 octobre à Vincennes, où après avoir été particulièrement prudente dans les premiers mètres de course, elle a su revenir de loin dans une action significative pour s'adjuger une prometteuse 3e place. Et sachez que le style de sa fin de course ce jour-là me permet de vous affirmer qu'elle devrait pouvoir cette fois s'imposer et remporter ainsi sa 3e victoire en seulement 10 sorties. Notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1. Dans la cinquième course, le numéro 9, Infante de tout.
Le numéro 9, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. Vous revenez dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. Vous écoutez Europe 1, vous réveille. On revient avec le pressing du lundi.
Votre revue de presse décalée chaque matin sur Europe 1 et au menu, l'imprudence des piétons, les faux rires bannis des sitcoms et l'histoire de la première française médecin. A tout de suite.
Ombline Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bon lundi matin, bonne reprise, il est 5h12, c'est l'heure de votre pressing. Nous sommes rejoints par Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Ombline, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux, les écoliers et la pornographie, le cri d'alarme, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Pendant le confinement, les jeunes enfants se sont mis à consulter tout seuls des images pornographiques, une dérive qui aujourd'hui se répercute à l'école, parfois dès le CM1. L'école, il en est aussi question à la une du Figaro, pourquoi l'éducation nationale peine à recruter, titre Le Quotidien. En 20 ans, le nombre d'inscrits au concours de professeurs a diminué de moitié, avec pour conséquence une baisse de niveau des admis et le recours massif aux contractuels. Et puis Facebook, lui réguler son compte, peut-on lire à la une de Libération, avec pour illustration le visage de Mark Zuckerberg. Aujourd'hui, Frances Haugen, la lanceuse d'alerte des Facebook Files, sera auditionnée par les eurodéputés et demain par les sénateurs et nos députés à nous. Voilà pour les unes. Ombline, quel article avez-vous retenu ce matin ?
Quand vous étiez enfant, messieurs, et que vous vous apprêtiez à traverser une rue sur un passage clouté au niveau d'un feu, qu'est-ce qu'on vous a appris ?
D'attendre que le petit bonhomme passe au vert.
Regardez à droite et à gauche.
Excellente réponse. Vous êtes vraiment au fait des règles de sécurité. Exactement. Ça, c'est la base. Pas vraiment. En grandissant, on a tendance à oublier les bons réflexes de sécurité, voire on s'en lave les mains. Le Parisien aujourd'hui en France dévoile une étude qui nous dit qu'un tiers des piétons dans les grandes villes de France sont imprudents lorsqu'ils traversent. Autant vous dire que le petit bonhomme, qu'il soit vert ou rouge, c'est plus de la déco pour plus de 60% des piétons aventureux, sans parler de ceux qui utilisent leur téléphone. On traverse n'importe comment, surtout le matin et le soir, quand on est pressé d'aller ou de quitter le bureau et pendant la pause déjeuner. Voilà, le citadin se hâte et s'engage sur la chaussée n'importe où. Le passage protégé devient alors une simple option. Le danger est bien plus sérieux que ça en a l'air, messieurs. Un chiffre révèle l'ampleur du problème. L'an dernier, 391 piétons ont été tués. Ça représente quand même 15% de la mortalité routière. C'est beaucoup, car on imagine facilement que c'est évitable. Et pourtant, à Paris, par exemple, toujours en 2020, sur les 45 décès attribués à la mortalité routière, 15 étaient des piétons. Et les chiffres ne baissent pas. Alors qu'on constate une amélioration générale sur les routes, et notamment grâce à nos voitures, plus modernes, plus sûres, et bien concernant les piétons, ça stagne. La faute aussi aux nouvelles mobilités. C'est le Far West pour bon nombre d'utilisateurs de trottinettes. Et puis, il y a de plus en plus de vélos sur les routes. Les villes se sont transformées en jungle urbaine. Le danger vient de partout.
Je crache plus par terre, je traite plus les mers, je traverse que quand le petit bonhomme est vert.
Voilà, on traverse quand le petit bonhomme est vert. Ça, c'est le côté mélomane de Julien Pierce qui m'a soufflé dans l'oreille cette magnifique chanson.
Film culte 2009, film d'animation que je conseille.
Les piétons imprudents, c'est à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Merci Ombline. Martin, à vous.
Est-ce que vous regardez des séries, Ombline, Julien ?
Oh, bah, tout le temps.
Oui, ça nous arrive.
Donc vous avez forcément passé des soirées à entendre ça.
Ça m'agace au plus haut point.
Donc,
ça fait longtemps, mais
drôle pour certains, agaçant, horripilant pour d'autres. Ah. Il faut en tout cas partie du quotidien, sériphile. Mais le site Slate nous apprend aujourd'hui qu'après 70 ans de bons et loyaux services, ils sont en train de disparaître du paysage audiovisuel. Alors, ces rires sont une vraie tradition, surtout à la télé américaine. Ils sont apparus dans les années 50. Au départ, ils étaient filmés en direct avec un vrai public. Mais très vite, un Américain du nom de Charlie Douglas a eu l'idée géniale d'inventer une boîte à rire. Ça s'appelle la Laughbox, avec 320 rires préalablement enregistrés. Bon, visiblement, on en a perdu quelques-uns en route, parce que c'est quand même souvent le même maintenant. Et ils étaient captés lors d'une émission de mime, où c'était parfait parce qu'aucune voix de comédien ne venait perturber les éclats de rire par-dessus les spectateurs.
Et donc, aujourd'hui, en 2020, ces rires, Martin, ont définitivement disparu.
Oui, quasiment. Une des dernières grandes séries à les utiliser, c'était The Big Bang Theory. Série qui s'est finie en 2019. Alors, pourquoi cette disparition ? Certains spécialistes estiment que c'est à cause de la pandémie. Une fois de plus, dans le monde d'après, fait de huis clos et de jauge, à quoi bon faire croire qu'un large public est là pour rire ? Pour d'autres, le tournant a été la sortie de The Office. une série que vous connaissez tous, un monument comique avec Steve Carell dans le rôle d'un patron très malaisant, mais sans aucun rire ajouté. Depuis que ce même Carell a obtenu un Emmy Awards, aucun programme avec des rires additionnels n'a plus jamais gagné de petite statuette. Deux exemples pour finir qui témoignent à quel point les rires ont perdu de leur superbe. Sur YouTube, des petits malins ont remixé des séries cultes comme Friends ou Oh I Met Your Mother en enlevant tous les rires. Allez voir, c'est assez étrange. À l'inverse, d'autres séries plus récentes réutilisent ces rires, mais uniquement pour créer un sentiment de malaise. Ça devrait vous plaire, Julien. Voilà. Les sitcoms ont définitivement dit adieu au rire préenregistré, c'est-à-dire sur le site de Slate.
Ça faisait partie aussi, un petit peu comme vous le disiez, de tradition. Mais les années 90 et les rires enregistrés sur les séries, ça va avec Friends sans rire.
Sans rire. Bah,
ça doit vraiment.
Il y a des blancs partout.
Ça doit être très bizarre. Ça doit perdre
en rythme. On y perd quelque chose en fait.
Exactement. Merci beaucoup Martin. Un petit quiz à présent. Merci Excellent. Aussi à notre cher réalisateur. Savez-vous en quelle année la France a eu sa toute première femme médecin?
Il y a 100 ans, on va dire.
Ouais, début du 20e.
Ouais.
1875, très exactement, 19e siècle. Et connaissez-vous son nom?
Ah non.
Non. Elle s'appelait Madeleine Bresse et le Figaro nous raconte ce matin le parcours de cette femme que rien ne prédestinait à exercer la médecine. Madeleine Gébelin, son nom de jeune fille, née en 1842 à Bouillargues dans le Gard. Son père est maréchal ferrant et la fillette l'accompagne souvent à l'hospice de Nîmes où il intervient régulièrement. Madeleine a 8 ans et devient la petite protégée d'une infirmière religieuse qui accompagne le médecin dans ses tournées. Elle l'observe distribuer potions et bouillons et apprend même, dit-on, à poser un cataplasme, sa vocation est née. Mais Madeleine grandit et la réalité de son époque la rattrape. Car être une femme au 19e siècle, c'est avant tout devenir mère et tenir le foyer. Mère au foyer, voilà donc la destinée de l'adolescente qui n'a que 15 ans quand elle se marie avec Adrien Bresse, 10 ans son aîné. Un, deux, puis trois enfants agrandissent rapidement la famille. Madeleine a évidemment arrêté très tôt l'école, mais elle sait lire et écrire, une rareté à l'époque. Nous sommes en 1866. La jeune femme a désormais 24 ans et quelques complications financières. Son mari a fait de la prison pour banqueroute et abus de confiance. En clair, les revenus du couple sont aléatoires. Madeleine doit donc travailler, mais elle ne veut pas d'un métier qui ne l'intéresse pas. Non, elle veut passer de femme au foyer à femme médecin. Ce qui, à l'époque, n'existe pas. Ce n'est pas interdit à proprement parler, mais il y a une barrière de taille. Pour faire médecine, il faut avoir le baccalauréat. Or, ce dernier n'est accessible aux femmes que depuis 1861, soit 5 ans auparavant. Et encore, il faut que le mari ou le père donne son accord, ce que fait en l'occurrence Adrien Bresse. Madeleine commence donc à étudier sur les conseils du doyen de la faculté de médecine de Paris, l'un des rares médecins de l'époque à ne pas être opposé à l'instruction des femmes. Après un premier échec, Madeleine obtient finalement ses bacs lettres et sciences et devient donc la première française à intégrer une fac de médecine dans le pays, mais pas la première femme tout court. Un an plus tôt, une américaine, Mary Putnam, était partie en éclaireuse dans le monde moustachu et misogyne de la médecine. Voilà par exemple que disait à l'époque un éminent professeur. Pour faire une femme médecin, il faut lui faire perdre la sensibilité, la timidité, la pudeur, l'endurcir par la vue des choses les plus horribles et les plus effrayantes. Lorsque la femme en serait arrivée là, je me demande que resterait-il de la femme, un être qui ne serait plus ni une jeune fille, ni une femme, ni une épouse, ni une mère. C'est donc dans cette ambiance hautement chargée en testostérone et de bêtises que Madeleine Bresse va donc pendant 7 ans étudier et s'illustrer pendant la guerre franco-prussienne. Elle excelle à soigner ses patients et reçoit même les louanges d'un célèbre professeur à la Pitié-Salpêtrière. Mais pour autant, cela ne lui permet pas de passer son externat ou son internat, encore interdit aux femmes. Mais la jeune femme n'abdique pas, elle a trois enfants à nourrir et un destin à réaliser. Sa thèse intitulée « De la mamelle et de l'allaitement de la mamelle à l'allaitement » reçoit les félicitations du jury en 1875. Madeleine Bresse devient dès lors la toute première française médecin. Elle va se consacrer toute sa carrière à la santé de la mère et de l'enfant, probablement parce que c'est le seul domaine dans lequel sa présence semblait légitime à l'époque. Madeleine Bresse s'est éteinte en 1921 et un siècle plus tard, 44% des médecins en France sont des femmes et on ne s'en porte que mieux.
Et elle ne s'occupe pas que des problèmes de mère et d'enfant.
Heureusement aussi.
Merci beaucoup Julien Rideau sur le pressing. Martin, on vous retrouve dans 40 minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h21 sur Europe 1. Les principaux titres de ce lundi, c'est le journal permanent avec Docteur Le Prince.
Plus de 7200 nouveaux cas de Covid. Ces dernières 24 heures, il n'y a plus de doute, l'épidémie repart. Emmanuel Macron prendra la parole demain soir à 20h. Une nouvelle allocution promise cet été pour évoquer la situation sanitaire, évidemment, mais aussi la relance économique et les réformes à 5 mois de la présidentielle. Clôture ce matin de la conférence des évêques de France à Lourdes. Ils se prononceront aujourd'hui sur des mesures d'indemnisation et de prévention après les révélations du rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église. Et puis avant d'acheter un appartement ou une maison, vérifiez d'abord vos finances. Selon une étude Se Loger qu'Europe 1 vous dévoile en exclusivité ce matin, devenir propriétaire coûte 12% de plus qu'en 2015.
Les initiatives en France, notre coup de projecteur quotidien sur celles et ceux qui font bouger les lignes. Ce matin, direction l'Alsace.
Bonjour Philippe Beyer.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes le directeur de l'entreprise Beyer et vous allez commercialiser dans quelques jours la toute première confiture sans sucre. Expliquez-nous.
Alors, on ne peut pas l'appeler confiture, mais on l'a appelé fruit à tartiner. C'est-à-dire que par rapport à une autre confiture classique ou allégée, on a enlevé la totalité du saccharose, c'est-à-dire tout le sucre ajouté, et on l'a remplacé par un édulcorant, qui est le sucralose, et on a complété tout le sucre qu'on a enlevé par du fruit. Donc on arrive à un fruit à tartiner avec une présence de 96%, par exemple de fraises ou d'abricots ou de mirabelles. Voilà. Il y a 96% de fruits, un petit peu de gélification avec de la pectine issue de fruits, et cet édulcorant, plus parfois un petit peu de jus de citron concentré pour maintenir l'acidité au bon niveau.
D'accord, donc c'est juste une question d'appellation, c'est parce qu'il faut absolument qu'il y ait du sucre dans une confiture pour pouvoir l'appeler confiture.
Tout à fait.
Donc si on ne peut pas appeler votre produit confiture, quelle est l'appellation de votre produit alors ?
Nous l'avons appelé fruit à tartiner, tout simplement.
Et alors quel est le résultat ? C'est aussi savoureux qu'une confiture classique ?
Bah, il est juste magnifique.
Vous n'allez pas nous dire le contraire en même temps.
On a une priorité chez nous, Beyer, c'est que tout produit qu'on fabrique doit absolument être gustativement parfait. Ça n'existe pas, ça ne fait pas partie d'un mot qui fait partie de ce monde. Mais il doit être toujours très bon.
C'est le fruit, sans jeu de mots, c'est le fruit de longues recherches.
Donc le début de l'histoire, c'est octobre 2016. Après, on a réfléchi, on a regardé. On a essayé de trouver des produits 100% issus de fruits. Mais on rajoutait du moût de raisin, on rajoutait du sirop de date, on rajoutait... Ça nous ne convenait pas. Et il y a un petit peu plus que 2 ans, j'ai rencontré le professeur Michel Pinget, qui est le patron du C2ED à Strasbourg, qui est le Centre européen d'études du diabète. Et on a eu un premier échange où on lui a montré les choses sur lesquelles on avait travaillé. Il y a eu le déclic.
Vu qu'il n'y a pas de sucre, j'imagine qu'une fois ouvert, le pot se conserve un peu moins longtemps qu'une confiture classique.
Évidemment, c'est évident. Alors,
combien de jours ?
Le produit est transformé, mis en bocaux, à une température élevée, puis pasteurisé. Il fait que tant qu'il n'est pas ouvert, on peut le considérer comme une conserve. Donc, tant qu'il n'est pas ouvert, ce n'est pas un souci. Une fois qu'on l'ouvre, on a, nous, positionné un délai de 7 jours pour la consommation, sachant qu'on a fait de façon très sérieuse des essais chez nous à l'usine, où tous les jours on rouvrait le pot, on en prenait une cuillère ou une cuillère et demie, on refermait le pot et on le remettait au frigo. Si c'est fait dans cet ordre des choses, c'est-à-dire on ne met pas de miettes de pain, on ne met pas de beurre dedans, on ne mélange pas différents secteurs. On a tenu une quinzaine de jours avant qu'il se passe un développement de moisissure.
Merci beaucoup, Philippe Beyer, de nous avoir présenté votre innovation, les pots de fruits à tartiner, en clair des confitures sans sucre, estampillées Beyer, même si on n'a pas le droit de dire le mot confiture. Très bonne journée à vous et à bientôt.
Merci, au plaisir. Bonne journée à vous.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon réveil à tous, il est 5h28 en ce lundi et voici le programme de la prochaine demi-heure.
Marie Jiquel va nous parler de la série VTC, l'histoire d'une chauffeuse à la dérive prise dans un engrenage infernal.
Et puis direction les États-Unis, l'une des destinations préférées des Français.
Et ils sont nombreux à avoir pris leur mal en patience. Après 18 mois d'attente, les frontières américaines sont à nouveau ouvertes, à condition d'être vaccinées et de présenter un test négatif réalisé moins de 3 jours avant le départ. Pour préparer votre voyage, retrouvez dès aujourd'hui en kiosque le numéro spécial Amérique, le grand retour du Figaro Voyage, illustré de photos dépaysantes, des tours obligés par New York, Manhattan, Brooklyn, Harlem. Dans l'œil de l'objectif d'Éric Martin, le photojournaliste sera notre invité dans 10 minutes.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri et CNAPS.
Anissa Haddadi, est-ce que le temps calme de ce week-end se poursuit aujourd'hui et voire pour demain,
un peu plus loin, voire
oui,
toute
voilà.
la semaine.
Ouais.
Eh bien oui, Julien, la réponse est oui. Nous avons la chance d'être sous l'influence d'un bel anticyclone sur l'Atlantique qui nous protège. Et puis il y a aussi, entre la Scandinavie et la Méditerranée, une petite dépression. Alors du coup, on a ce temps qui est un petit peu partagé. Donc on a un temps qui sera plus agité dans le sud de la France aujourd'hui. Au bord de la Méditerranée, on a du vent fort. Hein. Mistral et Tramontane jusqu'à 100 km/h en rafale toute la journée. Cet après-midi, en Corse, le temps va se dégrader nettement avec des orages qui éclatent, des orages qui seront localement forts où on attend jusqu'à 60 mm. Donc en plus, les cumuls seront importants. Et puis cet orage sur la Corse, il va pouvoir aussi un petit peu déborder sur la Côte d'Azur cet après-midi. Dans les Pyrénées, on a encore de la neige à 1400 mètres d'altitude et partout ailleurs. Alors attention au brouillard ce matin dans le nord-ouest. Mais alors sinon cet après-midi, sur les Hauts-de-France, la région parisienne et la Normandie, ça sera bien ensoleillé. Sur le quart sud-est, du très beau temps et ailleurs, bah, c'est partagé, nuages et éclaircies. Les températures, elles sont fraîches. Couvrez-vous, moins 1 à Reims, 0 à Charleville-Mézières, 1 degré à Aurillac, 5 à Paris et Rennes, 10 à Dunkerque et 14 à Nice. Cet après-midi, ça ne va pas franchement grimper, seulement 8 à 19 degrés, 8 à Saint-Étienne et 13 à Paris.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1. D'avoir fait ce pas, ça nous permet vraiment d'avoir pu passer à la deuxième étape, qui est l'étape de se dire, il faut qu'on prenne des décisions fortes, courageuses, pour avancer.
L'Église de France reconnaît sa responsabilité pleine et entière dans les crimes sexuels commis en son sein. Monseigneur Crépy, que vous venez d'entendre, confirme la volonté d'indemniser les victimes d'abus. Comment ? La Conférence des évêques de France doit en dévoiler les modalités aujourd'hui. Emmanuel Macron face aux Français. Le président doit prendre la parole demain soir pour évoquer la situation sanitaire, mais pas uniquement. Le chef de l'État devrait aussi défendre son bilan en matière de réforme. Et puis lui aussi est très attendu après 6 mois passés à bord de la Station spatiale internationale. Thomas Pesquet dit faire son retour sur Terre de 24 heures. Le Français doit amerrir au large de la Floride demain à 4h33, très précisément, heure française.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Ces décisions sont très attendues un mois après la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. La Conférence des évêques de France clôt ses travaux aujourd'hui à Lourdes et son président, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, l'a assuré hier sur France 2. Un calendrier précis avec des mesures concrètes pour lutter contre la pédocriminalité sera dévoilé tout à l'heure à l'occasion d'une conférence de presse. Rien n'a filtré, mais on a quelques pistes, Virginie Riva.
Écoutez, que ça soit sur les versements financiers qui seront faits aux victimes, sur les réformes internes ou encore les mesures de prévention, en réalité, toutes les résolutions sont restées secrètes car elles sont soumises au vote des évêques ce matin même et il faut 2/3 des voix pour qu'elles soient adoptées. Donc à ce stade, impossible de savoir quelles seront les mesures concrètes annoncées. Une chose est sûre, vendredi, les évêques ont créé la surprise en votant un texte reconnaissant la responsabilité institutionnelle de l'Église et la dimension systémique des crimes sexuels en son sein. Un moment clé pour Mgr Crépy en charge des questions de pédophilie au sein de la Conférence des évêques de France.
Il y a eu un basculement, si vous voulez. On s'est dit aussi, allez, il ne faut pas avoir peur des choses. D'avoir fait ce pas, ça nous permet vraiment d'avoir pu passer à la deuxième étape, qui est l'étape de se dire, il faut qu'on prenne des décisions fortes, courageuses pour avancer.
L'Église a-t-elle enfin entendu les souffrances des victimes et leurs demandes ? C'est un peu sa dernière occasion de le prouver. Hier soir, les évêques se sont réunis en silence et ont prié ensemble après avoir dévoilé vendredi la photo d'une sculpture d'enfants pleurant et demandé pardon à Dieu.
Virginie Riva.
Emmanuel Macron à la télévision. Le chef de l'État prendra la parole demain soir à 20h pour évoquer la situation épidémique en France.
Elle est encore loin d'être catastrophique, mais l'exécutif ne veut pas prendre le risque de voir l'épidémie s'emballer à 5 mois de l'élection présidentielle. 8 8547 cas positifs relevés hier dans toute la France. Des enfants contraints de remettre le masque dès ce matin, jour de rentrée scolaire dans les écoles primaires des 39 départements qui en étaient jusque-là dispensés. Il y a aussi la question de la troisième dose et du pass sanitaire. Sacré programme pour une allocution qui ne se limitera pas à la crise sanitaire, Jacques Serret.
Oui, s'il sera bien question de vaccination, de troisième dose ou encore de port du masque, Emmanuel Macron ne prend pas uniquement la parole pour ça. Certes, l'épidémie repart, de nouvelles mesures vont donc être prises lors du Conseil de défense sanitaire demain matin, mais en coulisses, cette allocution présidentielle est déjà préparée depuis un certain temps. L'Élysée rappelle que le 12 juillet dernier, le chef de l'État lui-même s'était engagé à revenir devant les Français à l'automne. Nous y sommes, et le président va aller bien au-delà des questions purement sanitaires. Emmanuel Macron veut parler de la reprise économique, rappeler les réformes engagées ces derniers mois, vanter le plan de relance, le plan d'investissement France 2030 ou encore le contrat engagement jeune. Le locataire de l'Élysée devrait également préciser ses intentions sur la réforme des retraites. En somme, bilan du quinquennat et projet pour les prochains mois et les prochaines années. À 5 mois de la présidentielle, cela n'a rien d'anodin. Sans le dire officiellement, Emmanuel Macron s'apprête à enfiler définitivement le costume d'un président candidat à sa réélection.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Un président qui ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat. Un prétendant, en revanche, est sur le point de le faire, c'est Éric Zemmour.
Faire comme si, tout en ne disant rien de ses intentions, Éric Zemmour a déjà remporté un premier pari, occupé l'espace médiatique. Le dernier sondage d'opinion IFOP pour Le Figaro et LCI l'envoie au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 17% des voix. Reste à se décider et ce sera pour bientôt. C'est ce qu'il a dit hier chez nos confrères de BFM.
Il y a beaucoup de gens qui veulent que je sois candidat à la présidentielle. Il y a beaucoup de gens qui veulent que je sois président de la République. Pour des raisons simples que j'ai, non, parce que mon discours, mon diagnostic, mes solutions sont entendues par un nombre croissant de Français. C'est simple, je ne vais pas laisser tomber ces gens-là. Tout est en place. Il ne reste plus qu'à me décider et à appuyer sur le bouton. Et à décider du jour et de la manière.
Éric Zemmour chez nos confrères de BFM hier après-midi. Si vous voulez voir l'Amérique, c'est à nouveau possible à partir d'aujourd'hui. Le pays rouvre ses frontières aux voyageurs internationaux après 18 mois de fermeture. Quelques conditions à remplir tout de même. Il faudra justifier d'un schéma vaccinal complet et produire un test PCR négatif.
Dans l'Aisne, un homme de 29 ans est entre la vie et la mort après un nouvel accident de chasse.
Ce chasseur a été gravement atteint au thorax alors qu'il participait à une chasse privée dans la forêt de Landricourt. Le tireur, chasseur lui aussi, s'est présenté spontanément à la gendarmerie. Il est en garde à vue. Dans le Tarn, c'est une victoire judiciaire qui pourrait inspirer les opposants aux éoliennes. La Cour d'appel de Toulouse reconnaît la réalité d'un syndrome éolien. Un couple a obtenu 128 000 euros de dédommagement au terme d'un combat qui aura duré 6 ans. La santé de ces quadragénaires s'était considérablement dégradée après l'installation de 6 éoliennes dont la plus proche était à 700 mètres de leur maison.
Lui est à 400 km d'altitude, encore quelques heures de patience. Thomas Pesquet sera bientôt de retour parmi les siens.
Retour retardé en raison des mauvaises conditions météo. Après 6 mois passés à bord de la Station Spatiale Internationale, le Français s'apprête à remettre les pieds sur le plancher des vaches. Pour une fois, les fans et ceux qui ont fini par s'agacer du phénomène Pesquet seront d'accord. Enfin, il rentre. À 4h33 la nuit prochaine, la capsule se posera au large de la Floride au terme d'un voyage minutieusement préparé au CNTR.
La première étape critique de ce voyage vers la Terre, c'est le désorbitage, le moment où la capsule Crew Dragon va pénétrer dans l'atmosphère à une vitesse d'environ 27 000 km/h, puis freiner dans sa course vertigineuse pour se stabiliser. À cette étape, la température peut grimper jusqu'à 1600 degrés à l'extérieur de l'appareil. Ensuite, il restera moins d'une heure avant l'amérissage. Des parachutes s'ouvriront à 10 km, puis 3 km d'altitude pour que la capsule se pose le plus doucement possible sur les flots. Un scénario idéal qui dépend d'une météo clémente, comme l'explique Rémi Canton, chef de projet de la mission Alpha.
Un sauvetage en mer classique, on choisirait un jour de bonne météo plutôt qu'un jour de tempête. C'est exactement la même chose. Et en plus, la trajectoire de rentrée, c'est un travail de précision. Donc s'il y a des fortes rafales de vent en altitude, ça peut faire dévier la trajectoire, ce qui rendrait également compliqué la récupération en mer. Voilà, puisqu'un bateau attend sur le site théorique d'amérissage, il ne faudrait pas attendre plusieurs heures avant de retrouver la capsule au milieu de l'eau.
Et puis c'est une nouvelle mission qui commencera pour les 4 astronautes, celle de la réadaptation à la vie sur la Terre ferme.
Océane Théar, le football, la saison des festivals est terminée, mais Rennes a offert un récital hier face à Lyon en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Victoire 4-1 des Rennais. En tennis, Novak Djokovic était déjà assuré de terminer l'année numéro 1 mondial pour la 7e fois, record absolu. Il s'est offert un 6e titre au Masters 1000 de Paris aux dépens du Russe Daniil Medvedev. Et puis en Formule 1, Max Verstappen remporte le Grand Prix du Mexique et augmente son avance au championnat sur Lewis Hamilton qui a pris la 2e place. Sergio Pérez termine 3e sur l'autre Red Bull.
Sergio Pérez, le local de l'étape puisqu'il est mexicain. C'est d'ailleurs la première fois qu'un Mexicain monte sur le podium à son Grand Prix national. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. Les courses, ils piquent les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur les 2100 mètres de la grande piste de l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce quintet. Et sur ce tracé de vitesse, priorité aux chevaux s'élançant en première ligne derrière l'autostart avec les numéros 9 Victor Ferme et 6 Valzer di Poggio, deux concurrents italiens très confirmés avec ce mode de départ et dont la parfaite condition physique est certaine. On leur opposera Ulvutalov, le numéro 8, toujours très performant lorsqu'il évolue sans ses quatre fers, avec Baron des Doux, le numéro 5, déjà lauréat sur ce parcours, mais aussi titulaire du meilleur chrono sur cette distance à Vincennes. Enfin, les numéros 7, Décoloration, 15, Domingo Della, 3, Dreamer Boy et 16, Copsi, peuvent, comme beaucoup d'autres, s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 9, 6, 8, 5, 7, 15, 3, et 16.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger. 5h39, rendez-vous aux États-Unis et à New York en particulier dans un instant sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h40 et après 18 mois d'attente, les frontières des États-Unis rouvrent à partir d'aujourd'hui. Certains Français se pressent déjà dans les aéroports à condition qu'ils soient vaccinés et qu'ils présentent un test négatif réalisé moins de 3 jours avant le départ. Et à cette occasion, le Figaro Voyage sort ce lundi le numéro spécial Amérique, le grand retour, un dossier complet pour préparer son prochain périple au cœur des États-Unis de l'après-Covid. Nous sommes en Blin avec le photojournaliste Éric Martin.
Bonjour.
Bonjour.
Vous aviez parcouru déjà à pareil à la main les États-Unis. Vous y êtes retourné dans cette Amérique de l'après-pandémie et confinement. Vous avez eu l'autorisation d'y aller avant cette réouverture officielle des frontières, de Los Angeles à la Nouvelle-Orléans, en passant par l'incontournable New York. Ce sont toutes ces villes que nous verrons dans ce Figaro Voyage. Et vous avez atterri à New York. Est-ce que vous aviez hâte d'y retourner ?
Bien sûr que j'avais hâte d'y retourner pour un photographe. Cette ville est absolument fascinante, quoi. Et on savait qu'elle avait été durement touchée, donc on voulait faire un peu le point, savoir où on voyait les gens, faire un carnet d'adresses récent. Nous, on a défriché des adresses dingues.
Vous avez remarqué vraiment un changement assez notable, ou peut-être
oui,
des quartiers
sur
plus que d'autres
des petites choses. Par exemple, on a l'impression qu'ils ont découvert le concept de terrasse. Il n'y avait pas tant de terrasse que ça aux États-Unis, mais pour surmonter la crise, en fait, on a donné l'autorisation aux restaurants, aux bars d'ouvrir des terrasses, de déborder sur la rue, de déborder chez les voisins. Donc, ils ont non seulement ouvert des terrasses, mais ensuite, ils les ont couverts donc, par des igloos, des igloos assez étonnants, en plastique renforcé, des cabanons en bois colorés. Ce qui fait que, par exemple, à Harlem, il y a une rue où il y a des séries de cabanons colorés devant les restaurants. Ces terrasses, ça donne un côté presque favelas joyeux le soir. Et ça, c'est totalement nouveau. Et donc, même dans les quartiers assez chics comme Tribeca, par exemple, bah, c'est à 15h, les terrasses sont pleines, les gens prennent le soleil, prennent le café, le déjeuner d'affaires se prolonge. Il y a une atmosphère qui a un peu changé, quoi. Il y a quelque chose de presque méditerranéen, quoi. Un peu. Ça me semble assez nouveau. En tout cas, ces terrasses n'existaient pas avant et ils ont pris goût et ils vont sûrement les garder. Donc ça, c'est un point. Et ensuite, il y a toute une série d'activités qui n'existaient pas avant et qui se sont adaptées au Covid. Par exemple, les cinémas étaient, alors ça, c'est un truc dingue. Les cinémas étaient fermés. Et donc, des petits malins ont récupéré un parking côté Brooklyn et l'ont transformé en drive-in. Ça s'appelle Skyline Drive-in. Ils ont fixé un écran géant sur une vieille cheminée. Et quand vous êtes dans votre voiture, vous regardez le film. Ce qui est fou, c'est que quand vous êtes en face de Manhattan, vous êtes de l'autre côté de East River, vous voyez toute la skyline derrière l'écran. C'est-à-dire, vous voyez le soleil se coucher, donc le film se déclenche au moment où le soleil est encore un peu rouge, et vous voyez toute la silhouette de Manhattan derrière l'écran.
Oui, c'est pas simplement renaître, en fait, c'est revivre entièrement, c'est changer ses habitudes aussi, puisque vous le disiez avec les terrasses, changer ses habitudes de consommation.
Par exemple, ils ont monté voilà, un vignoble sur les toits, donc les bars étaient un peu fermés, et ils ont mis des vignes sur les toits, donc on peut aller boire un verre. Mais ce vignoble est rentable, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une déco comme ça pour attirer des bobos. C'est vraiment un vrai vignoble rentable. Quand moi je suis arrivé, le lendemain de l'atterrissage très tôt, il y avait les vendanges. Donc je suis allé voir ça et donc il y avait tout le quartier qui était sur les toits en train de couper le raisin, de vraies vendanges, quoi, les copains, etc. Et ensuite, le soir, vous pouvez aller boire un verre au milieu de ces pieds de vigne. Et vous avez aussi tout Brooklyn, au loin, certains buildings de Manhattan. Et vous êtes au milieu d'un vignoble. C'est une première au monde, je crois. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui sont dans le carnet d'adresse. On vous donne tout dedans.
Et oui, c'est ça. C'est extrêmement complet. Il y a plein d'endroits où aller se restaurer, se balader, se visiter. Est-ce que vous avez, un endroit qui vous a particulièrement marqué? Vous êtes retourné à l'Apollo de Harlem, par exemple. Enfin, je sais qu'il y a une photo.
Fermé,
Il est fermé, mais bon.
Alors là, il y a une adresse assez incroyable. Parce que, effectivement, en fait, ce magazine est assez haut de gamme. Donc, on cherche de très, très belles destinations, de très beaux hôtels, etc. Mais on est aussi sensible au charme de ces hébergements. Et on en a trouvé qui ne sont pas si chers que ça. Notamment, il y en a un à Harlem qui est juste dingue, qui n'est pas nouveau. C'est en fait dans une ancienne, comment on appelle ça, des brownstones. Vous savez, ces bâtiments typiques de New York et de Harlem en grès rouge avec un petit escalier pour accéder à l'intérieur. Et donc, lui, ce musicien a reconstitué une vieille maison du 19e. C'est charmant. Ça coûte que 100 dollars, 120 dollars. Vous pouvez y aller avec des ados pour découvrir Harlem en toute sécurité. Parce qu'ensuite, vous pouvez vous balader. Je suis allé boire un verre avec une dans un bar à côté, de sublimes cocktails à 9-10 dollars. Et on a découvert aussi un restaurant incroyable qui s'appelle le Vinateria. Voilà, c'est lui qui nous a fait découvrir. Donc tout ça, on a fait un parcours et on a mis ses adresses. Et on sait que si vous dormez chez lui, le salon, il y a des instruments de musique partout, donc il joue avec ses copains, mais si vous êtes musicien, vous pouvez aussi aller jouer. Ce sont des petites adresses comme ça, mais bourrées de charme, qui vous permettent d'être, par exemple, dans Harlem. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dimanche pour un gospel, et puis quittent Harlem. Ensuite, ils sont traités un peu comme du bétail, on fait cantonne à certaines places et tout. Là, vous restez 2 jours à Harlem, vous êtes avec René Calvo, qui allait de notre part. Et vous allez peut-être jouer de la musique si vous êtes musicien. Il va vous montrer des trucs incroyables dans Harlem. Donc, on cherche aussi ce genre d'adresses qui sont aussi des expériences.
Oui, un petit peu insolites et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 et de nous avoir fait voyager par procuration dès ce lundi matin. Vous êtes Éric Martin, photojournaliste, et vos clichés de New York et des États-Unis sont dans ce numéro spécial du Figaro Voyage Amérique, le grand retour qui sort en kiosque aujourd'hui. Merci beaucoup.
Au revoir.
J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City serait ça.
Yves Simon et J'ai rêvé New York, vous savez où aller lors de vos prochaines vacances?
Absolument. Et pour l'heure, on est de retour en France et plus précisément dans les rues de Paris de nuit. Voilà ce qui est au menu de la prescription culture de Marie Jiquel. Bonjour Marie.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Vous nous faites prendre le volant ce matin à travers cette série qu'on pourrait qualifier de drive à la française.
Oui, vous vous souvenez de ce film qui avait séduit Cannes il y a 10 ans? 10 ans, avec Ryan Gosling, Drive, même ambiance nocturne et dangereuse ici dans cette série nommée VTC, est disponible sur Canal+ en ce moment. L'histoire d'une chauffeuse de VTC, Nora, jouée par l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani. Nora, un personnage au bout du rouleau, sans appart, sa seule voiture pour abri, accro aux amphétamines, éloignée de sa fille et son seul frère pour attache.
Pourquoi tu vas un peu aux entraînements? Ça te faisait du bien, ça?
J'ai pas la thune. Faut que je mette de côté pour la caution de l'appart. Sans ça, j'aurais pas la garde de Sonia. En plus, il y a l'électronique de ma bagnole qui déconne depuis mon accrochage.
Voilà, sa course va la mener à un réseau de trafiquants.
Tu conduis, tu poses pas de questions, ok?
Ils sortent de vrais chauffeurs comme toi et moi pour faire leur livraison.
Le sac.
Un réseau VTC existant, c'est une super couverture.
On te recontactera.
Et quand il y est, c'est compliqué d'en sortir.
Alors c'est une série à suspense, à la réalisation particulièrement tranchée, avec une seule unité de temps et de lieu.
Oui, tout à fait. 5 épisodes pour raconter une seule nuit. Le format fonctionne bien, des épisodes courts d'une 20aine de minutes à la narration rythmée, c'est très efficace. Et puis une seule unité de lieu aussi, l'habitacle de la voiture qui donne une ambiance de huis clos assez anxiogène, parfaite pour ce thriller. On suit donc cette virée infernale depuis la voiture, équipée de plusieurs caméras internes et externes.
Le réalisateur Julien Bittner révèle avoir voulu filmer des scènes symptomatiques de notre époque.
Oui, et au-delà de cette vie très solitaire des chauffeurs VTC et du défilé des clients qui posent leurs angoisses sur la banquette arrière, la série insiste sur notre monde ultra connecté, multitude de plans sur l'écran de portable de la chauffeuse, GPS, appel en visio, SMS. Seul bémol de la série, le jeu inégal des acteurs, hein, mais on adore la bande-son électro de cette série qui emprunte nos chers bruits de voiture, les tic-tac des clignotants et autres klaxons.
Merci beaucoup, Marie Jiquel. VTC, c'est à voir en ce moment sur Canal+.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h49 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité de ce lundi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Quelles seront les annonces d'Emmanuel Macron demain soir ? Le président prend la parole au moment où l'épidémie de Covid connaît un rebond. Plus de 7200 cas enregistrés hier. Il devrait aussi évoquer la relance économique et les réformes à 5 mois de la présidentielle. Times Square retrouve les foules. Les États-Unis accueillent à nouveau à partir d'aujourd'hui les touristes européens vaccinés et testés. Soulagement pour certaines familles séparées depuis maintenant 20 mois. Augmentation du prix du mètre carré, des frais de notaire, des coûts des crédits. Acheter un bien immobilier coûte 12% de plus qu'il y a 6 ans. Résultat d'une étude Se Loger qu'Europe 1 vous dévoile en exclusivité ce matin.
Europe Matin.
L'actualité de ce lundi s'écrit aussi dans vos quotidiens régionaux. On sélectionne chaque matin un article de la presse locale et c'est celui ou celle qui l'a écrit qui nous le raconte.
Bonjour Pierre-Marie Herriot.
Bonjour, Julien Pire.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le rédacteur en chef de Presse Océan et vous nous faites découvrir ce matin un livre qui raconte les coulisses de la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Oui, et ce livre, c'est un ouvrage de journaliste. Il a été écrit par Éléonore Duplay, qui est journaliste à France 3 Pays de la Loire et qui, au fil des années, est allé effectuer de nombreux reportages sur cette ZAD, cette zone à défendre, devenue malheureusement célèbre, hein, avec tous les heurts, tous les incidents, toutes les actions menées par les opposants au projet d'un nouvel aéroport pour la métropole de Nantes.
Opposants qui ont eu gain de cause début 2018 avec l'abandon de ce projet d'aéroport, je le rappelle. La force de ce livre, c'est qu'il ne prend aucun parti.
Absolument, c'est une histoire humaine. Il y a des humains avec leurs idéaux, leurs passions, mais aussi leurs divisions. Et puis il y a des personnages. Il y a Julien Durand, qui a été une des figures de la lutte. Et puis il y a de l'autre côté Nicole Klein, qui a été la préfète qui a réglé ce problème et qui a sûrement, parfois contre la volonté de certains décideurs, locaux ou nationaux, réussi à imposer sa vision des choses.
Ce récit, c'est aussi, je dirais, l'aboutissement du courage de cette journaliste qui a continué à se rendre sur la ZAD quand beaucoup de ses confrères l'avaient déserté, excédé d'y être reçu de manière, on va dire, assez violente.
Oui, absolument. C'était vraiment un conflit difficile à couvrir pour nous, journalistes. Vous savez bien comment ça se passe dans notre métier. On veut aller sur place et quand vous êtes sur place et que vous êtes pris à partie, que les gens refusent de vous parler, que les gens refusent d'être filmés, que les gens refusent d'être photographiés et que lorsque vous regagnez votre véhicule, vous le retrouvez avec les pneus crevés, les vitres explosées, c'est assez pénible. À cela s'ajoute bah, évidemment toute la couverture des incidents, où là il faut éviter à la fois les cailloux d'un côté, les grenades lacrymogènes ou les tirs de flashball de l'autre. Bon voilà, c'est un conflit qui n'a vraiment pas été très agréable à couvrir. En plus, dans des conditions géographiques compliquées, puisqu'on est dans des bois, dans des champs. L'hiver, c'était absolument fantasmagorique parfois.
On découvre à travers ce livre signé Éléonore Duplay que Notre-Dame-des-Landes est toujours en partie occupée, près de 4 ans après l'abandon du projet.
Oui, absolument. Bah, c'est-à-dire que les gens qui, sur place, étaient venus juste pour la lutte, beaucoup de ceux-là sont repartis, mais il y avait aussi les locaux. Et puis, quelques éléments qui sont restés, qui se sont installés, qui ont commencé à créer des activités. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux sont là dans toute illégalité. Soit ils occupent ou ils ont construit des locaux sans permis, soit ils occupent donc des locaux sans autorisation, soit ils procèdent à des activités agricoles ou de l'élevage, mais sans aucune autorisation. Pas tous, hein, mais certains. Donc évidemment, c'est très compliqué. Et les autorités sont un petit peu ennuyées. Il y a aussi le problème des terres. Les terres que l'État avait acquises ont été rendues au département. Certains agriculteurs en ont récupéré, mais d'autres voudraient récupérer leurs terres. C'est compliqué, ils ont touché de l'argent. Enfin voilà, c'est un petit peu inextricable, un petit peu insoluble.
Ça s'appelle Notre-Dame-des-Landes, après la lutte. C'est signé Éléonore Duplay aux éditions du Seuil. Et c'est le livre que vous nous faites découvrir ce matin dans Presse Océan. Merci beaucoup, Pierre-Marie Herriot.
Merci, Julien.
À très bientôt.
À très bientôt.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Du coup, je dis bon lundi à tous. Hein, bah, ça suffira
quand même mieux,
à la française.
On est bien en France, hein.
Merci de choisir Europe 1. Soyez les bienvenus. 5h56 dans un instant. La météo, le journal et le retour des masques en classe.
C'est la conséquence de la hausse des contaminations. Les écoliers de 39 départements supplémentaires vont tout à l'heure faire leur rentrée masquée un mois seulement après avoir retrouvé la liberté, la joie de voir le visage de leurs camarades et enseignants. Est-ce bien utile ? Ne vaudrait-il pas mieux vacciner nos enfants comme cela se fait aux États-Unis depuis la semaine dernière ? On posera ces questions dans 10 minutes à l'infectiologue Benjamin Davido. On écoutera ensuite Omblin votre partition.
Il a passé des années à vouloir prouver sa légitimité. Eminem, blond, peroxydé aux yeux bleus, va devenir l'un des plus grands noms de l'histoire du rap américain. Le début de son histoire dans 20 minutes. A tout de suite.
Très bon réveil à tous, il est 6h. Qui sera le candidat de la droite à la présidentielle de 2022 ? Ils sont 5 et vont débattre pour la première fois ce soir à la télévision. Un objectif, convaincre les militants qui trancheront début décembre. L'Allemagne aura-t-elle un gouvernement avant Noël ? Un mois et demi après les élections, les négociations vont bon train et le chancelier pourrait être désigné pour la Saint-Nicolas. À moins de 2 mois de Noël, justement, vous avez peut-être commencé vos cadeaux. Ce livre devrait faire partie des meilleures ventes. La nouvelle BD de Riyad Satouf, consacrée à l'acteur Vincent Lacoste.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Du débat, mais pas de bagarre. C'est la consigne donnée aux candidats Les Républicains en lice pour l'investiture du parti. Premier débat télévisé ce soir. Pouvoir d'achat, immigration, sécurité et international. 4 thèmes et 2 heures de joute pour ces 5 prétendants qui se sont préparés tout le week-end, Alexandre Chauveau.
Celle qui attend le plus ces débats, c'est Valérie Pécresse. La candidate dispose d'une équipe solide et rêve de créer la surprise comme François Fillon à la primaire de 2016. Elle a tout à gagner, résume un proche. Pour cela, elle compte sur un programme qui mêle libéralisme économique et fermeté sur le plan régalien. Comme elle, Xavier Bertrand endosse dorénavant le costume de challenger et joue lui aussi une carte importante ce soir. Son ambition, reconquérir les militants, dont certains lui en veulent toujours d'avoir quitté le parti en 2017. Le président des Hauts-de-France est apparu ces derniers jours plus humble, sans pour autant perdre sa détermination. Autre candidat et stratégie opposée, Michel Barnier tentera de conserver sa position de favori dans un exercice qu'il maîtrise sans doute moins que ses concurrents. L'ancien commissaire européen a travaillé une bonne partie du week-end avec ses conseillers pour gagner en efficacité dans ses prises de parole. Objectif, réponse courte et 1 à 2 idées maximum par thème. Enfin, le débat sera l'occasion pour Éric Ciotti et Philippe Juvin d'avancer des idées sur leurs sujets favoris. L'un sur l'immigration, l'autre sur la santé.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Un premier débat qui pourrait bien être éclipsé par une autre prise de parole, celle d'Emmanuel Macron qui s'exprime demain soir. Une allocution pour évoquer entre autres la reprise de l'épidémie. Ce matin, les écoliers de 39 nouveaux départements devront retourner à l'école avec un masque.
Un épais brouillard plane au-dessus de la cour d'assises de Paris, chargée de juger le meurtre ou l'assassinat de Mireille Knoll. Au 9e jour du procès, ce lundi, les témoignages s'enlisent.
Les deux accusés se renvoient la responsabilité du meurtre de cette femme juive de 85 ans qui l'a poignardée de 11 coups de couteau. Les juges entendront aujourd'hui la version de Yassine Mioub, ancien voisin de Mireille Knoll. Sa famille, elle, perd espoir. Maître Charles défend le petit-fils de la victime.
Je ne sais pas ce qu'on peut véritablement attendre de lui, à mon avis pas grand-chose. Il nous appartiendra à nous, chacun dans le rôle qui est le nôtre, les avocats, et ensuite à la cour d'assises d'arriver à déterminer entre les nombreux mensonges et ce qui peut être objectivement retenu, où se trouve la vérité. C'est une tâche très difficile quand on doit affronter des gens qui mentent de manière permanente. Leur défense est de dire que l'autre a tout fait. Et on ne peut pas concevoir que dans ce huis clos, avec cet acharnement, ce crime ait été commis, suivi d'un incendie volontaire d'un corps, sans que celui qui aurait moins fait n'adhère un minimum à ce qui était en train de se passer. Donc c'est tout à fait inconcevable de dire que l'on n'a pas voulu cette horreur et qu'on ne s'y est pas opposé.
Maître Charles, avocat du petit-fils de Mireille Knoll au micro de Marion Gauthier.
Il est 6h passé de 3 minutes sur Europe 1. On en vient à cette conception, on va dire, particulière de la démocratie. Être désigné vainqueur avant même le dépouillement des voix.
Au Nicaragua, le président Daniel Ortega est assuré d'être réélu pour un 4e mandat. Un scrutin organisé hier et qualifié de comédie par Washington alors que les opposants ont été placés en détention provisoire.
Un champ chancelier pour la Saint-Nicolas. Qui dit mieux, en Allemagne, les négociations entre SPD, Verts et Libéraux vont plus vite que prévu.
À tel point que le social-démocrate Olaf Scholz a toutes les chances d'être désigné pour le 6 décembre. Un calendrier serré et réglé comme du papier à musique. Les précisions de notre correspondante à Berlin, Hélène Kohl.
Pour former sa coalition à trois partis, une première au niveau national en Allemagne, Olaf Scholz a réparti ses troupes dans 22 groupes de travail différents. Au total, 288 négociateurs sont à l'œuvre, avec une seule règle pour l'instant. On ne travaille ni le week-end, ni la nuit. Pas question de décrocher des compromis par épuisement des partenaires. Ça, c'était la méthode Merkel. Chaque parti a envoyé ses meilleurs experts qui travaillent dans le domaine qu'ils maîtrisent, défense, santé, éducation. Ils ont jusqu'à mercredi 18h pour rendre leur copie, 5 pages maximum, rédigées en police 11. Ensuite, les trois directions des partis se donnent 10 jours pour faire les derniers arbitrages et répartir les postes de ministres. Il va y avoir des tensions autour du portefeuille des finances que veulent à la fois les Verts et les Libéraux. Les Verts veulent aussi mettre en place un mécanisme de conformité écologique des lois avec la possibilité qu'elles soient retoquées automatiquement si elles éloignent l'Allemagne de ses objectifs climatiques. C'est sur ce point qu'on a pris du retard en fin de semaine dernière. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
C'est un cadeau qui sera à coup sûr sous le sapin de très nombreux Français. La nouvelle bande dessinée de Riyad Satouf, son titre, Le jeune acteur.
Et ce jeune acteur, c'est Vincent Lacoste, ancien ado au physique ingrat, devenu star du cinéma français. Cet album, c'est l'histoire d'une rencontre, il y a 12 ans, sur le tournage du film Les Beaux Gosses. Un premier film pour les deux hommes, l'un devant et l'autre derrière la caméra. Découverte avec Marie Jiquel.
Enfin, j'imagine que tu voudrais pas trop sortir avec moi.
Non. Non, mais t'as vu ta gueule.
Qui a pu oublier cet adolescent ingrat, impopulaire au lycée et surtout auprès des filles, le héros des Beaux Gosses, le premier film de l'acteur Vincent Lacoste et du réalisateur Riyad Satouf, qui raconte dans cette bande dessinée les coulisses du tournage.
Il pensait qu'il allait jouer un jeune adolescent extrêmement séduisant avec une tablette de chocolat. Et en fait, il avait une coiffure toute pourrie et puis un pull tout naze et je l'avais pris parce qu'il avait une drôle de tête.
Riyad Satouf dessine sans filtre cette métamorphose de l'adolescent peu attirant au comédien charmant. Vincent Lacoste, 28 ans aujourd'hui, affiche plus d'une trentaine de films au compteur.
Quand je l'ai vu pour la première fois entrer dans cette pièce de casting et qu'il avait 14 ans, j'ai eu l'impression qu'un dessin à moi avait pris vie et venait me parler en fait. Je crois que c'est ce que j'ai préféré chez lui tout de suite.
La suite des nombreuses déconvenues du début de carrière de Vincent Lacoste arrive. Riyad Satouf promet une trilogie.
Et Riyad Satouf qui est aussi l'auteur de L'Arabe du futur. 5 tomes vendus à plus de 2 500 000 exemplaires. Ça promet de belles perspectives pour cette nouvelle bande dessinée.
Merci beaucoup Romain Hockey. C'était le journal de 6h.
Il est 6h06 et on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange. On commence avec du foot et Rennes qui s'affirme en haut du classement.
Oui, les Rennais ont balayé Lyon hier, 4 buts à 1 au Roazhon Park. 10e match sans défaite de suite pour les Bretons. Leur entraîneur Bruno Genesio a tenu à saluer l'état d'esprit de son groupe.
Je pense qu'on ne peut pas réaliser une performance comme on l'a faite ce soir sans un état d'esprit exceptionnel du groupe. Et je pense que si on est sur une belle série, c'est bien sûr parce qu'on a des qualités, mais aussi parce qu'on a un état d'esprit exceptionnel.
Ce matin, Rennes est 5e à 2 points seulement de Lens, 2e. Dans les autres matchs d'hier, Nice chute contre Montpellier 1-0. Marseille incapable de battre Metz 0-0. Et Saint-Etienne, un vainqueur de son premier match de la saison après une fin de partie complètement folle. Victoire 3-2 contre Clermont. Les Verts restent avant-dernier, juste derrière Bordeaux, 18e et barragiste.
Du tennis, Martin avec un Djokovic impérial.
Oui, le Serbe a remporté le tournoi de Paris-Bercy hier. Il a pris sa revanche sur le Russe Daniil Medvedev, qui l'avait battu en finale de l'US Open, le privant d'un incroyable grand chelem. Victoire en 3-7 et nouveau record pour Djoko. C'est son 37e trophée en Masters 1000. Le numéro mondial, très satisfait de sa saison, se projette déjà sur 2022.
J'ai réussi encore une fois de finir la saison comme numéro 1 mondial. Ça, c'était la plus grande ambition de cette période. Je suis très fier, très content. Je me sens bien. Je suis motivé, inspiré de progresser avec ce sport.
Il y avait de la voile aussi hier.
Oui, avec le grand départ de la Transat Jacques Vabre, ils étaient 79 bateaux répartis en 4 catégories à s'élancer hier du Havre. Chez les ultimes, ces trimarans géants qui volent sur l'eau, Franck Camas et son partenaire Charles Caudrelier font figure de favoris sur Edmond Rothschild et ils ne s'en cachent pas, écoutez.
C'est vrai qu'il y a 2 ans, on a fait une course appelée Brest Atlantique et c'est une course en double également.
et on a pu gagner avec Charles, donc on part pour viser la victoire, ça c'est sûr. On serait déçu de faire deuxième, mais on espère le mieux.
Ce matin, Camas et Caudrelier sont deuxième, ils sont attendus en Martinique autour du 20 novembre.
Trois résultats en bref, Martin.
De la Formule 1 et Verstappen qui se rapproche du titre. Le Néerlandais s'impose hier au Grand Prix du Mexique devant Hamilton. Du rugby et Clermont qui enfonce Toulon, victoire 31-6. Enfin, on finit avec le Marathon de New York et la victoire du Kenyan Albert Corrier hier sur Central Park.
Merci beaucoup Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, je reçois l'infectiologue Benjamin Davido alors que le retour en classe tout à l'heure se fera masquer pour des millions d'enfants. A tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
Bon début de matinée sur Europe 1, il est 6h11 et nous sommes en ligne, Julien, avec Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
Bonjour docteur.
Bonjour.
C'est la conséquence de la hausse du taux d'incidence un peu partout en France. Dans deux heures maintenant, les écoliers de 39 nouveaux départements vont devoir remettre le masque en classe, alors qu'ils ne l'avaient enlevé qu'il y a un mois pour la plupart. C'est vraiment nécessaire ce retour en arrière ?
Oui, très clairement. En fait, je pense qu'il ne fallait pas faire de marche en avant avec le masque. Il fallait le garder en réalité. Pourquoi ? Parce qu'à l'automne et à l'hiver, on vit en intérieur, on vit confiné. On a changé d'heure, il fait nuit plus tôt et on est donc plus à risque de se contaminer. Et en particulier les enfants qui sont souvent asymptomatiques, ce qui est assez sournois, finalement pernicieux comme transmission. Et les enfants ne sont pas vaccinés, comme vous le savez.
En indiquant qu'on pouvait enlever les masques en classe pour nos enfants, est-ce que ça a envoyé un message aux parents, celui d'un relâchement général peut-être ?
Oui, tout à fait, moi je le crois. En tout cas, comme ça avait pu le faire avec la carte de plusieurs couleurs, souvenez-vous, diviser la France où d'un côté il fait meilleur vivre et il y a moins de risques. Et en réalité, on sait qu'à partir du moment où le virus circule moins, lorsqu'on lève les gestes barrières et les mesures de freinage de la circulation du virus, on se donne la chance de refaire partir le virus plus vite et plus fort. Et c'est exactement le signal qu'on voit qui oblige justement à réintroduire ces masques. Et aujourd'hui, en réalité, on a plus que jamais besoin de ces gestes barrières, du port du masque en intérieur, j'insiste, parce qu'il y a eu parfois des discussions sur le port du masque en extérieur dont je ne comprends pas très bien les fondements scientifiques. Et on va avoir besoin très clairement pour passer l'automne et l'hiver d'une troisième dose et d'une troisième dose pour tous, avec, à mon avis, un calendrier d'ici 2022.
Pourtant, on n'a pas constaté de fermeture de classe en cascade quand les élèves n'avaient pas le masque. Ça s'est plutôt bien passé.
Oui, parce que les enfants, en réalité, sont très souvent asymptomatiques. Et donc, ça ne va pas forcément conduire à un dépistage, même si, malgré la fin de la gratuité des tests, les enfants restent dans le scope du dépistage. On sait que c'est plus compliqué, en réalité, de dépister les enfants. Et donc, souvent, on va avoir des contaminations par des chaînes de transmission des plus jeunes vers les aînés, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait, malheureusement, que, finalement, à partir du moment où on relâche un petit peu, j'ai envie de dire, sur le masque en intérieur, peu importe l'âge, et encore plus chez des enfants non vaccinés, qu'on pérennise la transmission du virus à l'automne avec les autres maladies, comme vous le savez, la bronchiolite et les autres virus de la période de l'hiver.
Est-ce que la solution ne serait pas que l'on vaccine nos enfants, nos 5-11 ans, comme cela se fait depuis mardi dernier aux États-Unis ?
Alors, je pense que c'est une solution qui, aux États-Unis, est légitime parce que ils ont eu, durant la quatrième vague, des formes graves chez les enfants hospitalisés avec des enfants qui ont un indice de masse corporelle, c'est-à-dire qu'ils sont plus gros, plus obèses et donc plus à risque de faire des formes sévères que globalement en Europe et qu'en France. Il faudra probablement se poser la question de la vaccination des plus jeunes lorsqu'on aura un petit peu plus de recul et surtout terminer la campagne de troisième dose. Pourquoi ? Parce que l'objectif encore de la vaccination, c'est d'éviter des formes graves à l'hôpital. En France, pour le moment, des formes graves chez les enfants, c'est anecdotique. Et donc, il faut à tout prix ne pas faire diversion en passant à une vaccination des enfants qui, comme on l'expliquait pour le masque, pourrait signifier qu'en fait, il n'y a plus de problème chez les adultes et qu'il faut maintenant emboîter le pas chez les enfants, alors que, si j'ai envie de dire, il faudrait être capable de faire les deux.
Je précise que l'Agence européenne du médicament doit rendre son avis sur la question mi-décembre en ce qui concerne le vaccin Pfizer. Elle est vraiment nécessaire, cette troisième dose, aujourd'hui ?
Elle est même, je dirais, capitale. Pourquoi ? Parce que, en réalité, souvenez-vous, au tout début, en janvier 2021, les Anglais pensaient même qu'il ne fallait qu'une seule dose. En réalité, cette deuxième dose nous a protégés, nous a donné une sorte de filet de sécurité vis-à-vis du variant Delta. La vérité, c'est qu'on le sait, plusieurs vaccins, beaucoup même, ont besoin de plusieurs doses de rappel, de boost de l'immunité. C'est le cas avec le variant Delta, la Covid. Et clairement, il faut au moins trois doses si on veut pouvoir avoir de l'immunité dans le temps au-delà de 6 mois. L'enjeu, vous serez d'accord avec moi, c'est que l'automne et l'hiver qui arrivent, ça va durer au moins 5 mois. Et donc, on voit pas très bien comment est-ce qu'on peut arriver à cette ligne d'arrivée sans avoir à nouveau des hospitalisations si on fait pas ces piqûres de rappel. Et ce qu'on voit malheureusement à l'hôpital, y compris ce week-end, ce sont des gens revenir qui avaient eu 2 doses, qui ont des comorbidités, qui sont âgés, qui n'ont pas fait leur rappel. Ce qui veut dire qu'il va falloir entrer dans un processus de rappel un peu universel. Et c'est d'ailleurs ce qui est fait pour les soignants, indépendamment de l'âge et de comorbidité. On revaccine tous les soignants parce qu'on sait qu'ils ont été vaccinés tôt dans la campagne et qu'on a besoin de les avoir en meilleure santé possible et sur le front face à ces différentes vagues qui risquent de succéder jusqu'à qu'on ait, je l'espère, une immunité collective.
Donc étendre ce rappel au reste de la population, c'est ce que vous estimez être nécessaire aujourd'hui? C'est ce que vous attendez de l'allocution peut-être mardi soir d'Emmanuel Macron?
Oui, absolument. J'attends un calendrier prévisionnel par ordre de priorité, comme on l'avait eu, souvenez-vous, en mars, sauf qu'en mars, à l'époque, les gens ne voulaient pas se faire vacciner. En réalité, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 8 adultes sur 10 a déjà été vaccinés et que faire une dose de rappel et non pas une troisième dose, que ça soit une troisième, une quatrième, peu importe, ça va être facile. On va pas avoir besoin de convaincre les gens à partir du moment où on leur explique que grâce à cette vaccination qui fonctionne avec ce pass sanitaire, on a pu éviter des restrictions et que si on veut pouvoir passer dans les meilleures conditions, sans restrictions et sans agiter ce chiffon rouge, vous savez, du jeudi soir où on vous dit que le ministre va parler, eh bien, je pense que c'est la meilleure des solutions. Et d'ailleurs, l'Allemagne a déjà emboîté le pas vers une vaccination universelle et l'Italie, en janvier, inclut cette troisième dose dans leur pass sanitaire.
Merci beaucoup, Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Très bonne journée à vous et à bientôt.
Il est 6h16 sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant, la partition d'Eminem.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 6h et bientôt 19 minutes sur Europe 1. Voici les principaux titres de ce lundi avec Alban Le Prince.
Une rentrée scolaire masquée aujourd'hui pour les élèves de primaire de 39 départements supplémentaires. Ceux où le taux d'incidence est repassé au-dessus du seuil de 50 malades pour 100 000 habitants. Ce rebond de l'épidémie se confirme puisque plus de 7 200 cas ont été enregistrés hier dans le pays. Emmanuel Macron prendra la parole demain à 20h à locution. Il sera aussi question de la relance économique et des réformes. Clôture aujourd'hui de la conférence des évêques de France. Après une semaine de discussion, les prélats doivent apporter des réponses après la publication du rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église. Ils annonceront des mesures de prévention mais aussi d'indemnisation.
Et comme chaque matin, on termine avec votre partition Omblin consacrée au rappeur le plus rapide de l'histoire. Un artiste à la peau blanche dans ce monde du hip-hop majoritairement noir. Pour y arriver, il a dû travailler plus dur que les autres. Eminem ou l'enfant terrible de l'Amérique.
Et on a toujours cette impression qu'il va débarquer avec un majeur levé à la face du monde. Eminem a tout, les textes, l'humour, le flow et cette rage de vaincre qui l'anime depuis qu'il est adolescent.
Marshall Mathers, troisième du nom, grandit dans les bas-fonds de Détroit.
Sa mère est toxicomane et sans ressources. Elle balade son fils entre des maisons vétustes et des caravanes. Il change d'école plusieurs fois par an.
Un enfant frêle qui devient rapidement le souffre-douleur de ses camarades.
Surtout d'un certain D'Angelo Bailey qui va le tabasser dans les toilettes. Eminem tombera dans le coma dont il gardera des séquelles toute sa vie. Il se vengera en consacrant des années plus tard un couplet entier à son agresseur.
Il n'a pas encore 10 ans quand une cassette va changer sa vie.
Une chanson de rap Reckless de Ice-T, c'est une révélation. Les mots, le rythme, adolescent, il va passer ses journées à écrire et pour son pseudo, il s'inspire de ses initiales M&M. Mais comme les friandises, eh bien il deviendra rapidement Eminem.
C'est à cette époque qu'il se lie d'amitié avec le jeune rappeur Proof.
Peu importe la couleur de leur peau, ils partagent le même amour pour le hip-hop et il s'avère que Proof va devenir son laissé-passer au sein de la communauté rap de Détroit.
Eminem se lance dans l'arène et se met à participer à ce que l'on appelle des battles.
Oui, le passage obligé pour réussir dans le rap et lors de ses batailles de mots, il prouve à quel point il excelle dans l'improvisation. Ce petit blanc maigrichon en manque de légitimité apprend pendant des heures les mots du dictionnaire. Il mettra plusieurs années à percer et son alter ego, le sale gosse The Slim Shady, lui ouvrira les portes de la gloire à la fin des années 90. En 2002, Eminem raconte son histoire dans le film 8 Mile.
His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke. He's so mad, but he won't give up. He won't have it, he knows. His whole back's at these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music, the moment you own it. Chance to blow, this opportunity comes once in a lifetime. His soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father, he goes home. Motherfucking roof off like two dogs caged. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I
Oscar de la meilleure chanson originale, Lose Yourself, sur la BO du film 8 Mile, sorti au cinéma aux États-Unis le 8 novembre 2002. 8 Mile, cette route de Détroit qui sépare la banlieue blanche et les quartiers noirs où a grandi Eminem.
Merci beaucoup, Omblin. On laisse The Slim Shady à Détroit. En revanche, The Slim Dimitri lui arrive dans un instant. Dimitri Pavlenko, bien sûr, à tout de suite.
Europe Matin.
Il est 6h27, excellente matinée sur Europe 1, excellente reprise.
On vous donne rendez-vous demain dès 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour à tous les deux.